Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces jeunes qu'on oublie. Une chronique de Régent Porlier, parue le 4 novembre 2024 dans Le Manique. On n'en est pas à une contradiction près, mais disons que celle-ci nous rattrape de tous les côtés. Si les jeunes représentent l'avenir comme on se plaît à le répéter dans nos sociétés dites modernes, comment se fait-il qu'ils soient les premiers à faire les frais de nos dérives sociales et politiques? Pas certain que si on leur demandait à quoi ils rêvent, peu importe leurs origines, ils décriraient ce monde avec lequel ils composent bien malgré eux. Il n'y a pas que sur les champs de bataille, où les guerres font rage, que l'absurdité des hommes tient la vedette et tue la naïveté. Bien sûr, la violence quotidienne à laquelle sont confrontés les enfants de la guerre n'a pas de commune mesure avec notre réalité nord-américaine, encore aujourd'hui à l'abri de ces bombes qu'on préfère fabriquer et vendre aux plus offrants. Tout cet argent dans l'armement, pour non pas mettre fin à la guerre, mais pour l'entretenir hypocritement. C'est ce qui explique sans doute que nos puissants voisins du Sud en sont à leur 1e visite en Israël pour quémander un ralentissement des hostilités, alors que meurent tous les jours femmes et enfants au point où c'est devenu la norme. Il semble que nous soyons devenus des spécialistes du double standard. Il y a notre réalité et celle des autres, et le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'on s'en indigne de moins en moins. Vous me direz que notre champ d'action est plutôt restreint, qu'on a bien peu d'influence sur ce qui se passe outre-mer, sinon de manifester à l'occasion ce qu'il nous reste d'indignation. C'est vrai, mais cette culture du double standard, elle se développe aussi chez nous, dans notre espace public. À commencer par cette laïcité qu'on peine à affirmer, tantôt pour ne pas froisser ou simplement faute de courage. Le double standard mène à l'incompréhension et des enfants mêlés, ça fait des adultes mêlés et surtout, ça érige des barrières. De tous les temps, ces barrières ont été érigées par les religions et pour ma part, derrière cette pseudo-quête de spiritualité, il y a celle de l'argent et du pouvoir, du moins pour l'élite. Un élitisme qui a beaucoup pâli, mais qui draine toujours une poignée de fanatiques prêts à en découdre avec la laïcité. Donc, malgré toute cette interférence religieuse, le défi est entier. Permettre à tous les enfants du Québec de rêver puisque l'avenir repose sur leurs épaules. Nous assurer d'offrir à chacun les mêmes opportunités pour qu'ils s'épaulent les uns les autres lorsque viennent les obstacles. Un enfant dont la société ne prend pas soin est un enfant qui cherchera une bouée à laquelle s'accrocher, gang de rue criminalisée, secte ou autre. Un enfant à qui on ferme les portes, tantôt pour son origine, tantôt simplement parce qu'il est différent, s'enfermera dans ce qu'il connaît en quête de valorisation. Et si ce qu'il connaît, c'est la violence, je nous souhaite bonne chance. La société québécoise a tout ce qu'il faut pour offrir à chaque enfant une source de valorisation, à condition d'en faire une priorité. A contrario, l'isolement, la stigmatisation et la ghettoisation alimentent la réflexion sur nos différences. Mettre l'accent sur ces différences, c'est nourrir la frustration et réveiller la colère. Et la colère n'a pas de couleur, de race, ni de sexe. L'arrivée massive d'immigrants a suscité et continue de susciter beaucoup de réactions, au point d'alimenter un certain ressentiment. L'essoufflement de nos institutions et parfois même les ruptures de services ici et là n'y sont pas étrangers. Nous avons toutes les raisons d'en vouloir au gouvernement fédéral d'avoir perdu le contrôle de l'immigration. N'empêche, tous ces immigrants ne repartiront pas, peu importe les discours populistes que nous servent certains politiciens. Deux choix s'offrent alors à nous qui, un jour pas si lointain, avons été des immigrants. Entretenir le double standard en nous répétant qu'il y a le « nous » et le « eux », comme si nous étions une classe à part qui méritons mieux, ou nous assurer de prendre tous les moyens pour que les immigrants fassent partie de la solution. Nos obstacles? Nos préjugés? Le double standard qui les alimente et le fanatisme religieux? Nos atouts? La laïcité dans tous les espaces publics, l'accès sans compromis à l'éducation pour tous et une politique d'emploi sans discrimination. Tentons juste de nous rappeler que les inégalités mènent systématiquement au chaos. C'était « Ces jeunes qu'on oublie », une chronique de Régent Porlier, paru le 4 novembre 2024 dans Le Manique.
Le café et la cité, un texte de Régis Labeaume, paru le 2 décembre 2024 dans la presse. Je ne me prends pas pour Ricardo Labeaume, mais j'ai adoré le film délicieux. C'est l'histoire d'un cuisinier, Pierre Manceron, qui, à l'aube de la Révolution française, vient d'être congédié par un détestable aristocrate, lequel possède une tronche parfaite pour tester la nouvelle invention d'un certain docteur Guillotin. Je vous laisse deviner l'utilité de celle-ci. Un excellent film français avec cette espèce de lenteur qu'on aime. La particularité de l'œuvre est qu'on y réfère comme étant le récit de la création du premier restaurant, du moins en France, ce qui serait inexact par ailleurs. À des années-lumière de ce récit sont les enseignes Starbucks, selon lesquelles les cafés sont des espaces de rencontre et de socialisation à l'écart du travail et de la maison, comme une extension du perron. Un brin faux poète, mais pas totalement erroné. Je vous ai déjà parlé d'un magnifique bouquin que je conseille à tout le monde, mais particulièrement à tous les politiciens et fonctionnaires municipaux, « Métropolis, une histoire de la plus grande invention humaine » écrit par Ben Wilson, un historien britannique. Pour résumer, il s'agit en gros de l'histoire des villes et de l'urbanité, l'invention en fait de la civilisation, selon l'auteur. Encore une fois, magistral. Et qu'est-ce que le café vient faire dans l'histoire? Pour l'auteur, tout d'abord, l'ingrédient. Le café coule à travers les veines de la cité des temps modernes. Et ensuite, les lieux, les cafés, des composants alimentant une alchimie sociale dans les villes. Je ne l'avais jamais vu comme cela. Il explique l'impact extraordinaire de la création de ces échoppes, les cafés, en Europe occidentale, à partir de la ville de Londres et leur place dans le développement d'institutions importantes de cette cité. La substance, le café, a été cultivée pour la première fois en Éthiopie et vendue à partir du 15e siècle. Les premières maisons de café firent leur apparition vers 1550 à Constantinople, où elles devinrent les lieux de rencontre à l'écart des mosquées et des foyers, et où se développa cette dépendance à la caféine que nous vivons encore aujourd'hui. En 1651, un marchand londonien ramena chez lui les grains addictifs et la machine pour les valoriser, et frappa un coup de circuit en ouvrant son premier café en 1654. Quelques années plus tard, il existait 80 de ceux-ci dans la ville et le concept s'exporta naturellement. Pour culminer, par exemple à Paris où, dans les années 1880, 40 000 cafés servaient des clients. La substance créa le lieu et le lieu devint un incroyable nœud de socialisation. Tout d'abord, un forum démocratique où des individus de toute classe sociale échangeaient commérages et actualités, rumeurs et vérités. Un lieu de savoir incontournable, à la différence des tavernes d'alors, où le maintien et les convenances de base ne permettaient pas l'échange d'informations pertinentes, laquelle activité inquiétait même les gouvernants, les cafés étant pour eux des foyers de sédition et de républicanisme. Et autrement redoutés par d'autres, comment fait foi cette pétition des femmes contre le café lancée au Royaume-Uni au milieu du XVIIe siècle? La consommation excessive de la dernière boisson à la mode, abominable et barbare, qu'on appelle café, émascule nos maris et paralyse nos plus beaux mâles, qui en deviennent aussi impuissants que le grand âge, aussi infertiles que le sont ces terres désertiques d'où provient, à ce qu'on dit, le funeste fruit. Mais ils étaient à ce point populaires que c'est dans un de ces cafés, le Jonathan's Coffee House, que fut créée la première bourse de valeurs mobilières dans ce qui est devenu la City. Le Royaume-Uni, devenu une puissance mondiale, le capitalisme financier avait besoin de lieux où des humains pouvaient négocier sur place des contrats. Des cafés se sont donc transformés en marchés publics, où on échangeait des valeurs bancaires, des emprunts publics ou des actions de compagnies gigantesques. Un de ces cafés, du nom d'Edward Lloyd's, rassemblait la faune du commerce maritime. Et Edward créa ce qui devint le géant de l'assurance que l'on connaît aujourd'hui, 335 ans plus tard, la Lloyd's of London. La science devenant une affaire publique, avec la création de la Société royale de Londres, ses adeptes, ne connaissant pas vraiment de succès de foule dans les institutions publiques, ils se mirent donc à fréquenter les cafés, où ils se créèrent des auditoires passionnés. On donnait même des cours de mathématiques au café de la marine. Évidemment, les artistes se prêtaient à des prestations dans différents cafés spécialisés selon l'expression culturelle. Pour l'auteur, l'existence des cafés doit être considérée comme l'une des principales composantes qui ont façonné les villes à cause des effets transformateurs qu'ils ont eus sur l'un des éléments constitutifs de la ville moderne, la sociabilité. D'ailleurs, encore aujourd'hui, l'ouverture de cafés hipster dans certains quartiers pas si populaires d'une ville est un facteur annonciateur d'un embourgeoisement en devenir. Dans les années 2010 à Harlem, des courtiers se sont même mis à investir discrètement dans des cafés pour soutenir artificiellement les valeurs espérées du bâti. Si en Corée du Sud, l'arrivée des Starbucks a permis aux jeunes femmes de s'évader de l'âpreté du foyer familial pour faire des rencontres, à Téhéran, les cafés sont aussi essentiels pour échanger à l'abri de la tyrannie, même si la loi impose à ces établissements l'installation de caméras de surveillance, garantes du contrôle civique de la clientèle. Mais en 2012, la police des mœurs iranienne a fermé 87 de ces établissements au motif qu'ils n'observaient pas les valeurs islamiques. Misère. C'était « Le café et la cité », un texte de Régis Labeaume, paru le 2 décembre 2024 dans La Presse.
Mon double numérique. Un texte de Gabriel Anctil, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science. Dans son plus récent essai, Doppelganger, la journaliste Naomi Klein s'intéresse à notre culture du sosie, pointant à la fois les avatars que nous créons sur diverses plateformes numériques et ces collections de données que les entreprises tech utilisent pour créer des simulations de l'intelligence et des fonctions humaines. Comme si la montagne des données personnelles collectées à notre insu formait une partie floue de notre identité dont nous n'aurions pas le contrôle. Et si, justement, nous reprenions en main notre identité virtuelle? C'est ce que propose Cécile Petitgan, présidente et fondatrice de Data Lama, une entreprise québécoise de gestion des données, dans son court essai « Données personnelles, reprenons le pouvoir » paru en 2024. C'est collectivement et individuellement que nous devrions pouvoir participer à l'établissement des conditions d'utilisation, de responsabilité, de transparence et de sécurité autour de nos données, écrit-elle en introduction de son manifeste. Sa ferveur a de quoi surprendre, car lorsqu'on parle de données personnelles, on pourrait croire que la bataille a depuis longtemps été gagnée par les géants de la tech. Avons-nous vraiment une chance face aux Google et Meta de ce monde? Au Québec, la loi 25 sur la protection des renseignements personnels vise justement à offrir un peu plus de pouvoir aux individus. Vous aurez certainement déjà reçu des demandes en lien avec cette nouvelle loi. Dans un langage abscon, on vous informe de l'usage projeté de vos données et des pouvoirs que vous détenez, de refuser ou de porter plainte. Mais donnez-vous réellement un consentement éclairé? Ou bien un consentement machinal, en sachant que cliquer « j'accepte » vous permettra d'accéder plus rapidement au site que vous souhaitez consulter? Cécile Petitgain rêve au « data empowerment » qui permettrait d'exercer un pouvoir de gestion sur nos données. Elle relève que certaines conditions devraient être réunies avant même qu'on demande à un individu de partager ses données, incluant le fait que leur usage serve l'intérêt public et non la poursuite d'objectifs lucratifs, et que les conditions d'accès aux données puissent être changées par les individus à tout moment. Pour y parvenir, on peut imaginer des lois autrement plus coercitives pour les entreprises que la loi 25. Voilà qui mène à rappeler la définition de consentement, souvent associée au contexte intime. Si nos données personnelles font réellement partie de nous, leur commercialisation ne revient-elle pas à enfreindre le droit qui nous revient de dire non? Car si le consentement n'est pas éclairé, il n'est pas réel. C'était « Mon double numérique », un texte de Gabriel Anctil, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science.
Montréal veut profiter de l'arrivée du REM pour ajouter des pistes cyclables. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. Montréal se prépare au déploiement du réseau express métropolitain, REM, prévu pour l'automne 2025. La Société de transport de Montréal, STM, qui a entrepris de redessiner sa desserte d'autobus, compte ajouter un circuit dans l'axe des avenues de Darlington et Wilderton dans le quartier Côte-des-Neiges. La ville entend, pour sa part, profiter de l'occasion pour sécuriser les déplacements actifs dans ce corridor situé à proximité de l'Université de Montréal, en ajoutant entre autres des aménagements cyclistes. Même si le mécontentement entourant la nouvelle piste cyclable de l'avenue de Terrebonne dans Notre-Dame-de-Grâce ne s'est toujours pas apaisé, l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce prévoit déjà de nouveaux aménagements cyclables. Cette fois, l'arrondissement a dans sa mire tout le secteur au nord de l'Université de Montréal, dans le quadrilatère formé par le chemin Bates, le boulevard Édouard-Montpetit et les avenues de Darlington et Wilderton. Des collisions par dizaines. La partie nord de ce périmètre est particulièrement dangereuse pour les piétons et les cyclistes. Entre 2017 et 2021, l'arrondissement y a recensé 66 collisions qui ont fait 3 blessés graves au sein de cette population. On veut sécuriser les déplacements pour les personnes les plus vulnérables. Donc, on va sécuriser les différentes intersections pour les piétons et mettre des infrastructures protégées pour le transport actif, explique la mairesse Gracia Kasuki-Katawa en entrevue. C'est un secteur qui a été négligé en termes de mobilité au cours des dernières décennies. Avec la densification, l'arrivée du REM et l'augmentation du nombre d'automobiles sur les routes, on voit que c'est de plus en plus le chaos dans ce secteur-là. Elle cite l'exemple de l'avenue de Darlington, qui compte une seule voie automobile, mais dont la largeur encourage les dépassements et les arrêts en double file. Le projet est encore à la phase de planification. Ainsi, Mme Katawa n'est pas en mesure de dire quel type de piste cyclable pourrait être aménagée sur les avenues de Darlington et Wilderton. l'élu soutient que des résidents du secteur, notamment les étudiants, attendent depuis longtemps des aménagements cyclables sur les deux artères. Et pour l'instant, elle ne peut pas préciser si, dans toute cette opération, des places de stationnement devront être retranchées. Il faut dire que, dans cet arrondissement, les pistes cyclables sont un sujet polarisant. Gracia Kasoki-Katawa l'admet d'emblée. Des consultations seront donc menées au cours de la prochaine année auprès des résidents et des commerçants riverains, ainsi qu'auprès des institutions et des écoles présentes. Un plan sera présenté au début de 2026. Les pistes cyclables sur de Darlington et Wilderton font partie du plan vélo de 2019. C'est connu depuis longtemps. Ce qu'on vient faire, c'est de transformer et sécuriser la mobilité dans le secteur. On espère que la réaction va être différente de celle entourant la piste de la rue de Terrebonne. Notre rôle comme élus municipaux, c'est d'accompagner les gens dans des changements qui sont absolument nécessaires dans la ville, dit-elle. Le statu quo n'est plus possible. Un nouveau circuit de bus. De son côté, la STM se prépare aux changements dans les déplacements que pourrait entraîner l'arrivée du REM. On voit un potentiel pour un nouvel axe nord-sud, indique le président du conseil d'administration de la STM, Eric Allen Caldwell. Le nouveau circuit entre les stations Édouard-Montpetit et Canora pourrait connecter trois stations de métro, soit Édouard-Montpetit, Université de Montréal et Côte-des-Neiges. L'arrondissement espère que le REM, qui permettra aux usagers de se rendre rapidement au centre-ville, provoquera un transfert modal et incitera les automobilistes à délaisser leurs voitures. De leur côté, les cyclistes devront être particulièrement motivés et en forme, car l'avenue de Darlington, direction sud, comporte une pente ascendante qui pourrait en rebuter certains. Le chantier qui débutera en 2026 pourrait durer 2 ans, mais la ville signale qu'il ne devrait pas nécessiter de travaux sur les infrastructures souterraines. Le budget reste encore à déterminer. L'ajout de pistes cyclables est une bonne nouvelle pour Jason Savard, porte-parole de l'Association des piétons et des cyclistes de NDG. On pourrait peut-être les connecter avec celles de la côte Sainte-Catherine qui ne se rend pas aux avenues de Darlington et Wilderton, dit-il. Selon lui, le retrait de places de stationnement pourrait toutefois susciter la controverse si cette option se concrétisait. On n'est pas contre une piste cyclable, indique pour sa part Mostafa El Ali, un résident du secteur croisé sur l'avenue de Darlington. Il estime cependant que l'artère devrait comporter 2 voies de circulation automobile compte tenu de l'afflux de véhicules à l'heure de pointe du matin. C'était « Montréal veut profiter de l'arrivée du REM pour ajouter des pistes cyclables », un texte de Jeanne Corriveau paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
L'apnée du sommeil pourrait entraîner des problèmes de mémoire ou de raisonnement. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 13 mars 2024 dans Le Devoir. L'apnée du sommeil pourrait entraîner des problèmes de mémoire ou de raisonnement, rappelle une nouvelle enquête réalisée auprès de quelque 4 300 personnes. Des chercheurs américains ont interrogé les participants au sujet de la qualité de leur sommeil, de leur mémoire et du fonctionnement de leur cerveau. Environ le quart des personnes questionnées ont témoigné de symptômes associés à l'apnée du sommeil. Le tiers de celles-ci ont rapporté des problèmes de mémoire ou de raisonnement, comparativement à 20 % des participants sans apnée du sommeil. Ça laisse sous-entendre ce qu'on savait déjà, a réagi la docteure Caroline Mainville de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il y a déjà plusieurs études qui ont regardé ça. On voit clairement que la plupart des patients qui ont de l'apnée du sommeil vont avoir des problèmes initialement, surtout les patients d'âge moyen, des problèmes d'attention et de cognition, plutôt que de mémoire à court terme. La littérature scientifique est moins claire pour les problèmes de mémoire à long terme, comme ceux qui sont associés à la démence ou à la maladie d'Alzheimer, a-t-elle ajouté. Puisqu'on ne dispose pas de bonnes études à long terme qui auraient été réalisées auprès de patients jeunes, souffrant d'apnée du sommeil non traitée, qui auraient été suivis pendant des années pour voir s'il y a un impact sur leur risque de démence. On sait toutefois que les patients atteints à la fois d'apnée du sommeil et d'Alzheimer, et dont l'apnée du sommeil est traitée, voient un bénéfice au niveau de leur mémoire, de leur cognition, et ainsi de suite, a rappelé la docteure Mainville. L'apnée du sommeil est probablement associée à plus de problèmes de démence, mais les données à ce sujet-là sont un peu plus variables dans la littérature, a-t-elle précisé. Une étude comme celle réalisée par les chercheurs américains, avec toutes les limites inhérentes à des données auto-rapportées, comme celles qu'ils ont utilisées, a au moins le mérite de rappeler qu'une bonne qualité de sommeil fait partie d'une bonne hygiène de vie, a précisé la docteure Mainville, et que cela semble contribuer à une bonne mémoire et à une bonne fonction cognitive. L'apnée du sommeil est clairement une atteinte qui peut contribuer à avoir une moins bonne mémoire, une moins bonne concentration, de la somnolence, a-t-elle dit. Il y a encore plusieurs patients qui souffrent d'apnée du sommeil et qui ne sont pas diagnostiqués, même s'il y a de plus en plus de dépistage et de conscientisation. Les problèmes de mémoire et de concentration peuvent avoir plusieurs causes, mais les gens qui en présentent auraient tout intérêt à explorer la piste de l'apnée du sommeil avec leur médecin de famille, estime la docteure Mainville, d'autant plus que les traitements se sont grandement améliorés au cours des dernières années. Un traitement, a-t-elle ajouté, pourra non seulement améliorer des facteurs comme la productivité au travail, mais aussi entraîner des bienfaits, comme une réduction des risques cardiovasculaires ou de dépression. Il y a plusieurs patients dont ça va vraiment améliorer la qualité de vie, a-t-elle conclu. Les conclusions de cette étude n'ont pas encore été publiées dans une revue évaluée par les pairs. Elles devraient être dévoilées le mois prochain lors d'un congrès de l'American Academy of Neurology. C'était « L'apnée du sommeil pourrait entraîner des problèmes de mémoire ou de raisonnement ». Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 13 mars 2024 dans Le Devoir.